Il est 7 heures. Le journal de 7 heures. Didier Blé.
Contentieux en matière électorale en Côte d'Ivoire, le code électoral ivoirien stipule que les résultats des élections municipales et régionales sont déclarés définitifs, tandis que ceux proclamés lors des sénatoriales, législatives et présidentielles sont des résultats provisoires. Pourquoi cette différence dans cette édition? L'éclairage du juriste Geoffroy Julien Kouaou. C'est bientôt la rentrée des classes dans nos différents conseils régionaux, mais en attendant, les effectifs ont été présentés la semaine dernière. Nous irons dans le Haut-Sassandra et le Lodjibois. Et puis au Niger, Emmanuel Macron annonce le retour dans les prochaines heures de l'ambassadeur français. Nous aurons la revue des titres présentée par Francis Cassis et puis en toute fin de journal, notre invité de la rédaction est le chef du bureau Côte d'Ivoire de la Fondation Friedrich Naumann, Magloire Ndeyi, en compagnie de Junior Cardin. Il évoquera le souvenir du 19 septembre 2002. Voilà pour le sommaire. Mesdames, Messieurs, bonjour et excellent début de semaine. Contentieux en matière électorale en Côte d'Ivoire, le code électoral ivoirien dispose que les résultats proclamés lors des élections municipales et régionales sont déclarés définitifs, tandis que ceux proclamés lors des sénatoriales, législatives et présidentielles sont des résultats provisoires. Pourquoi cette différence et quelles sont les implications de ces décisions dans les processus électoraux? Eh bien, suivons l'éclairage du juriste et analyste politique Geoffroy Julien Kouaou, qui souhaite dans ce sens que des réformes soient faites au niveau du code électoral.
Quand vous lisez les articles 164 et 193 du code électoral, effectivement, ces dispositions électorales affirment bien que le résultat proclamé par la CEI à l'occasion des élections locales, c'est-à-dire les municipales et les régionales, les résultats sont définitifs. Mais ça pose un problème, parce que si les élections sont définitives, c'est-à-dire qu'il n'y a plus de voie de recours, parce que dans l'espèce, la proclamation prend valeur d'acte administratif. Donc, ici, la décision prise par la commission électorale a autorité de la chose décidée. Donc, insusceptible de voie de recours. Or, dans la réalité, nous voyons qu'il y a des recours devant le Conseil d'État.
Pourquoi, lorsqu'on parle des sénatoriales, on parle de résultats provisoires? C'est la même chose aussi pour l'élection des députés. Et lorsqu'il s'agit d'élections locales, on a entendu le président de la CEI parler de résultats définitifs.
C'est la loi qui le dit. Le président de la CEI ne fait que respecter les dispositions de la loi. Il n'est pas législateur. Et donc, il faut, par exemple, suivre l'exemple de l'élection des sénateurs, de l'élection des députés et de celle du président de la République, où la CEI proclame des résultats provisoires et après le contentieux que ces résultats-là deviennent définitifs.
Geoffroy Julien Kouaou, juriste et analyste politique, qui était en compagnie de Jean-Claude Comé, le nouveau président du conseil régional du Haut-Sassandra. Le ministre Mamadou Touré a présenté les membres de son bureau, constitué de 8 vice-présidents. C'était ce samedi 23 septembre 2023 à la préfecture de Daloa, sous la présidence du préfet de région, Jean-Noël Comé.
Après avoir dirigé l'élection des vice-présidents du conseil régional, le président sortant Alphonse Djedjé Madi a réaffirmé son soutien et prodigué des conseils à la nouvelle équipe dirigeante du conseil régional du Haut-Sassandra.
Ce n'est pas toujours que nous sommes prolixes en projet pouvant nous permettre de générer des fonds. L'État sait que ce qu'il donne est insuffisant, mais essayer de faire en sorte qu'en plus des ressources que l'État met à la disposition de nos collectivités, de générer des ressources propres pour essayer d'aider nos parents. Monsieur le Président, bonne chance, nous sommes derrière toi.
Le tout nouveau président du conseil régional du Haut-Sassandra, le ministre Mamadou Touré, a pour sa part invité l'ensemble des conseillers régionaux à se départir de leur chapelle politique pour apporter leur contribution au développement de la région.
Que, au-delà des chapelles politiques, ce conseil constitue une famille, parce que nous sommes tous guidés par la même chose, faire avancer le Haut-Sassandra, faire avancer les projets, sortir les populations du sous-développement. Nous aurons la semaine prochaine la mise en place des commissions de travail, que ces commissions soit des plus inclusives au service de la région et de son développement.
Le préfet de région, préfet du département de Daloa, Kwame Kofi, qui supervisait ces travaux, a demandé au président du conseil régional et à l'ensemble des conseillers régionaux de tout mettre en œuvre pour le développement économique et social du Haut-Sassandra dans la paix et la cohésion. cohésion. Jean-Noël Kwame, Daloa, Radio de la Paix.
Et puis, nouveau bureau également du conseil régional du Lodjibwa. Amédée Kwaku Koffi a présenté son équipe et évoqué les leviers de sa mission. Cérémonie qui a suivi notre correspondant régional, Labelle César Cassin.
Tête des listes du RHDP à la récente élection, Amédée Kwaku Koffi est désormais officiellement le nouveau président de région. Il s'entoure de 6 vice-présidents, 3 hommes et 3 femmes issus respectivement des 3 départements qui composent le Lodjibwa, à savoir Divo, Guitry et Lakota. La suite des précisions, Amédée Kwaku Koffi.
Celle qui sera donc première vice-présidente est de Guitry, c'est Mme Nadine Nyeba. Le deuxième vice-président, c'est M. Lassina Kone Dibazo, de Divo Commune. La troisième vice-présidente est de Lakota de Zikisso. Il s'agit du colonel Nyadou Sabine. Le quatrième est de la sous-préfecture de Divo, M. Nguessan Denis. La cinquième vice-présidente est du canton Tigrou, donc de Lakota, Mme Anne Niaoré. Elle est du FPI. Et enfin, le sixième vice-président de Guitry, M. Yao Kwadjo.
Le nouveau président s'est réjoui de l'esprit de fair play dans lequel s'est déroulée l'élection. Il souhaite toutefois une participation tangible de tous les cadres des différents partis politiques au développement de la région.
Babli Dominique, qui n'est pas venu. Mais en plus, les gens de sa liste qui sont au conseil ne sont pas venus. Qu'ils viennent pour qu'on travaille ensemble.
Malgré son insuccès lors de cette élection, Lida Kwasi Moïse du PPSI figurait au nombre des 62 conseillers régionaux présents à cette cérémonie que présidait le préfet de région Kwaku Assouman. De Divo, Abel César Cassin, Radio de la Paix.
Le ministre Sidi Tiémoko Touré, ministre des Ressources animales et halieutiques, était l'invité le jeudi 21 septembre dernier de la 4e édition de la tribune d'échange Focus PND, tribune pilotée par la CGC, la Confédération Générale des Entreprises de Côte d'Ivoire. Cette initiative est destinée à présenter aux entreprises les principaux projets de l'État ivoirien inscrits dans le plan national de développement 2021-2025. Une occasion pour le ministre Sidi Touré d'inviter les acteurs du patronat à investir et contribuer fortement à relever la part de ressources animales et halieutiques dans le produit intérieur brut ivoirien. Linda Balier.
Et sur l'objectif visé par cette rencontre, le président de la CGC nous éclaire, Ahmed Sissé.
C'était de mieux faire connaître le ministère animal et halieutique. Il faudrait que ça demeure un ministère que le secteur privé ne connaît pas réellement. Et là, ça donne l'opportunité de venir entendre le ministre lui-même en personne et surtout de voir quelles sont les possibilités d'investissement dans ce ministère concernant le PND de 2021-2025.
Justement, sur cette question, le ministre des Ressources animales et halieutiques, Sidi Tiémoko Touré, ébauche quelques opportunités pour les investisseurs du secteur privé.
L'aquaculture ivoirienne, l'objectif de production affiché à l'horizon 2026 est de 150 000 tonnes de poissons d'élevage. Les investissements concernent deux niches majeures. La première, la mise en place d'unités de production d'étrants aquacoles. La seconde, la mise en place d'unités de production aquacole, le poisson marchand. L'agriculture, il s'agira de produire 101 millions de poussins de chair, 374 000 tonnes d'aliments et chiffre d'affaires. Correspondant aux besoins sont évalués à 194 milliards de francs CFA pour la production des troncs et 304 milliards de francs CFA pour la production d'élevage agricole.
In fine, le ministre Sidi Tiémoko Touré a invité tous les acteurs du patronat ivoirien à investir massivement dans les projets énoncés durant son exposé, surtout que 60% du financement de la politique PONADEPA, estimé à près de 1050 milliards de francs CFA, est attendu du secteur privé.
Merci à vous, Linda. Innovation et sciences, la 6e édition du concours Fighting Worlds Lab Abidjan s'est tenue le 21 septembre 2023 à Cocody. Et c'était au cours du Forum de l'innovation et des sciences, initié par la Fondation politique allemande Friedrich Naumann. L'événement a porté sur le thème biotechnologie, quels enjeux et défis pour l'Afrique, et a vu la participation de représentants d'institutions nationales et internationales, d'inventeurs et d'étudiants. Jean-Claude Nobéa.
Alexandra Helt, la directrice Afrique de l'Ouest de la Fondation Friedrich Naumann, a souligné l'importance de l'investissement dans l'innovation et la science pour l'avenir des pays en développement comme la Côte d'Ivoire.
Je veux encourager les autorités ivoiriennes et l'ensemble des partenaires au développement pour renforcer leur appui. Car l'investissement dans la recherche aujourd'hui signifie un avenir plus brillant pour la Côte d'Ivoire.
L'édition 2023 de ce forum porte sur la biotechnologie, notion qu'a définie le professeur Poimé Lazare, professeur titulaire de la chaire UNESCO de biotique.
C'est une des dimensions de ce qu'on appelle les technologies d'intelligence, axées sur toutes les méthodes et tous les systèmes techniques qui peuvent être développés de façon à pouvoir résoudre certains problèmes qui font appel à l'intelligence humaine, qui font appel à ce qu'on peut appeler la pensée calculante.
Cette initiative de la Fondation Friedrich Naumann est soutenue par l'Assemblée nationale, représentée par le docteur Nantari Touré Abois, présidente de la commission chargée de la recherche et de l'innovation technologique au sein de l'institution.
Vous pouvez compter sur la représentation nationale qu'est l'Assemblée nationale du Côte d'Ivoire pour vous soutenir dans ce qui, à l'évidence, peut contribuer à une véritable révolution pour l'économie ivoirienne en particulier.
Signalons que le vainqueur du concours de pitch, Kwadio Isaac Kwaku Eliakim, représentera la Côte d'Ivoire à la finale mondiale du Feeling World Labs à Berlin en Allemagne du 1er au 10 novembre 2023 avec le soutien de la Fondation Friedrich Naumann.
En page internationale, au Niger, le président français Emmanuel Macron a annoncé ce dimanche soir sur les chaînes de télévision le retour dans les prochaines heures de l'ambassadeur français à Niamey et le départ des troupes françaises d'ici la fin de l'année. Dans les prochaines heures, notre ambassadeur avec plusieurs diplomates rentrera en France, dit Emmanuel Macron. Après avoir refusé pendant plusieurs semaines de rappeler Sylvain Ité, son diplomate en chef au Niger, dont la junte réclamait le départ, le président français Emmanuel Macron a fini par mettre fin à cette situation. En effet, suite au retrait de son immunité le 29 août dernier, le premier représentant de la France au Niger était de fait retranché dans l'enceinte de l'ambassade, les forces de sécurité nigériennes opérant un quasi-blocus du bâtiment. Sans transition, retrouvons pour la revue des titres Francis Cassi. Francis, bonjour.
Alerte sur les documents administratifs. Bonjour Didier, bonjour à tous. C'est par ce sujet que s'ouvre notre revue des titres des journaux de ce lundi. Et à ce propos, le nouveau réveil bat sa une. Danger autour des documents administratifs. Les faux certificats de nationalité et casier judiciaire dans les rues. Comment cela a-t-il pu arriver? La CEI, de son côté, est dans le collimateur d'un élu. À en croire ce titre de l'héritage, l'honorable Yapi Kwadio Isidore casse la baraque. Une grande réforme de la CEI s'impose. La commission électorale est le mal des élections en Côte d'Ivoire. À la une aussi de vos tabloïds de ce jour, il est question des trois grands partis politiques ivoiriens. Au sujet du PDCI, Fraternité Matin a cette manchette. Décès du Bédier, résultat mitigé aux élections, congrès, PDCI-RDA, comment relancer la machine? Et le nouveau réveil de faire aussi cette réflexion toujours le concernant. Avant la présidentielle PDCI-RDA, deux sérieux problèmes à régler avant 2025. Quant aux indépendants sortis du RHDP lors des récentes élections locales, le patriote lui dit, trois semaines après leurs actes d'indiscipline, les dissidents pris au piège. Inflexible, la direction du RHDP leur dit non. Entre-temps, par rapport au PPACI, le quotidien d'Abidjan informe. Après les élections locales et sénatoriales, Gbagbo annonce une rencontre de vérité avec ses lieutenants. Mais pour le matin, après la débâcle aux élections locales et la déculottée au sénatorial, PPACI en colère, Gbagbo veut couper des têtes. Et puis, actualité internationale. S'intéressant à la tension entre la France et le Niger, née du coup d'État ayant renversé le président Mohamed Bazoum, Génération Nouvelle écrit. Après plusieurs semaines de bras de fer au Niger, Macron capitule et annonce le retrait des militaires français. Enfin, terminons notre revue des titres de ce 25 septembre par cette information nécrologique sur le PDCI-RDA, d'après le Nouveau Réveil. Le PDCI-RDA encore en deuil. Le ministre Lambert Kwasi Kwona décédé. Tout en indiquant également que décédé le 15 août dernier, Stéphane Bracanon inhumé samedi. Merci et bonne lecture de vos journaux.
Merci également à vous Francis Cassi et puis à très vite dans le prochain journal. À présent, notre invité de la rédaction est le chef du bureau Côte d'Ivoire de la Fondation allemande Friedrich Naumann, Magloire Ndeye. En effet, le 19 septembre 2002, s'est déclenchée en Côte d'Ivoire une crise militaire qui s'est transformée plus tard en rébellion armée. 21 ans après, notre invité évoque ce souvenir douloureux, souhaite que l'État de Côte d'Ivoire retrace les faits et transmette l'information aux jeunes générations. Magloire Ndeye répond aux questions de Junior Cardin.
Maglar Ndeye, bonjour.
Bonjour.
Vous venez de publier une contribution en mémoire donc du 19 septembre. Que représente pour vous le 19 septembre dans l'histoire de la Côte d'Ivoire?
Alors, le 19 septembre marque une date très grave pour l'histoire politique et sociale même de la Côte d'Ivoire. On peut dire qu'après les indépendances, la lutte pour les indépendances, l'une des plus graves crises que la Côte d'Ivoire a connue, c'est la crise du 19 septembre 2002. Malheureusement, nous constatons que cette date passe inaperçue. J'ai essayé cette semaine d'interroger quelques jeunes qui ont autour de 20 ans, 22 ans. J'ai été surpris de voir que ces jeunes-là ne savaient rien du 19 septembre. Malheureusement, si tous ces jeunes qui sont appelés à diriger la Côte d'Ivoire de demain ne savent pas que la Côte d'Ivoire a traversé une grave crise en 2002, je pense qu'on doit s'inquiéter de cette situation.
Mais Maglar Ndeye, est-ce que vous pouvez nous rappeler un peu quelques manifestations de cette crise sociopolitique que les jeunes doivent savoir?
Pour ce qu'on a pu voir le 19 septembre, c'est qu'il y a eu une rébellion armée qui a posé des revendications politiques et qui ont entraîné de grandes perturbations de la vie politique. On a vu le pays coupé en deux, des populations déplacées, plusieurs personnes ont été délocalisées de leur zone d'habitation, on a vu des familles déchirées. Donc cette crise a entraîné de graves dysfonctionnements dans notre pays jusqu'à ce que nous connaissons la crise post-électorale de 2010. Et parce que c'est dans la continuité donc de cette crise de 2002.
Et apparemment, vous semblez dénoncer le fait que les jeunes oublient cette étape de la vie de la nation, c'est ça?
Oui, je dénonce, mais je n'accuse pas nécessairement les jeunes parce que ce n'est pas de leur faute. Si on ne leur a pas dit ce qui s'est passé, si l'État de Côte d'Ivoire, si les parents, si le système éducatif n'a pas enseigné cela aux plus jeunes, ce n'est pas de leur faute. Donc j'interpelle justement l'État de Côte d'Ivoire que cette crise, nous l'avons vécue malheureusement, mais ce n'est pas la fin de toute chose. Il nous faut simplement créer de la mémoire pour que tous ces jeunes-là se rappellent que voici les raisons qui ont entraîné la guerre et nous ne devons que commettre ces mêmes erreurs.
Qu'est-ce qui doit être fait alors pour éviter cet oubli-là chez les jeunes?
Oui, il faut des événements, des programmes d'éducation pour les jeunes. Il faut intégrer cette histoire dans le système éducatif pour que les gens apprennent de ce qui s'est passé. Il faut des événements commémoratifs annuellement. Il faut des initiatives de documentation historique qui permettent donc de relire cette histoire. Mais surtout, je proposais donc la création d'un musée du 19 septembre. Donc un musée où on pourra trouver des photos, des portraits. On pourra trouver même les accords qui ont été signés au cours donc de la résolution de cette crise. On pourra trouver des portions, des ouvrages qui ont été détruits par exemple. On peut garder des petits symboles. Tout cela permettra donc de garder la mémoire et d'expliquer. Il ne s'agit pas de dire qui a raison, qui a tort. Mais il s'agit de regarder les faits, qu'est-ce qui s'est passé et comment on peut s'en souvenir régulièrement pour éviter qu'on retombe encore dans cette crise. Je pense que c'est des choses qu'on peut faire. Personnellement, j'ai commencé à collecter quelques articles de presse, quelques photos que je peux retrouver sur Internet, quelques petites vidéos. Mais je pense que l'État de Côte d'Ivoire a plus de légitimité, plus de moyens pour créer un tel musée, pour conserver la mémoire. Non pas pour effacer le passé, non. Il s'agit simplement de dire un jour en Côte d'Ivoire, il y a tel événement qui s'est passé, plus jamais ça.
Mais est-ce qu'avec une société ivoirienne fortement politisée, vous n'avez pas peur que ce schéma ne porte pas les fruits escomptés?
Non, je pense qu'il faut simplement un consensus. Il faut que l'État de Côte d'Ivoire, les partis politiques, la société civile, il faut juste qu'on s'accorde sur le minimum pour établir cela. La politisation de la société, ce n'est pas mauvais en soi. C'est juste l'instrumentalisation qu'on peut en faire qui peut être mauvaise. Je pense que pour une fois, il est possible que nous puissions nous accorder sur le minimum. Je l'ai dit une fois encore, il ne s'agit pas d'accuser X ou Y. Nous tous nous sommes d'accord que le 19 septembre 2002, il y a eu un événement qui s'est passé. Il s'agit juste de nous rappeler cela, de dire qu'est-ce qui s'est passé et que plus jamais cela ne se répète.
Ouais, pour finir, Maglar Ndeye, vous avez un message particulier à cette jeunesse qui semble oublier ce pan important de la vie de la Côte d'Ivoire.
Mon message, c'est de dire aux jeunes que nous avons une nation à construire, un grand pays à construire. Et je veux leur dire de relire notre histoire de sorte que nous ne fassions pas les mêmes erreurs que les aînés, nos anciens ont pu commettre. Donc, peut-être en attendant que les autorités ivoiriennes le fassent, mais c'est à eux d'aller chercher, aller lire notre histoire, faire des recherches parce que, en fin de compte, quand nous regardons dans l'histoire de l'humanité, les plus grandes nations que nous envions aujourd'hui sont passées par là, mais la différence avec nous, elles ont su garder la mémoire et perpétuer cette mémoire-là pour ne pas tomber dans les mêmes erreurs. Quand vous partez en Europe, vous partez dans un pays comme l'Allemagne, ils ont conservé la mémoire du nazisme, ils ont conservé la mémoire de la Seconde Guerre mondiale. Donc c'est aux jeunes de pouvoir conserver cette mémoire.
Comme pour dire que conserver la mémoire, ce n'est pas faire de l'apologie de ce qui s'est passé.
Non. Conserver la mémoire, c'est de se rappeler et d'en tirer les leçons pour construire le futur. C'est pas de ressasser le mal, non, pas du tout.
Magulandei, merci beaucoup.
Je vous remercie.
Maglandei, notre invité de ce lundi, était en tête en compagnie de Junior Gardin, justement pour évoquer le souvenir du 19 septembre 2002, tirer les leçons ensemble et transmettre toutes ces informations aux jeunes générations. C'est la fin de ce 7h, le rappel des titres. Contentieux en matière électorale, le Côte d'Ivoirien dispose que les résultats des élections municipales et régionales sont déclarés définitifs, tandis que ceux proclamés lors des législatives, sénatoriales et présidentielles sont provisoires. Pourquoi cette différence? Nous avons suivi l'éclairage du juriste Geoffroy Julien Kouaou. C'est bientôt la rentrée dans les différents conseils régionaux. En attendant, les effectifs ont été présentés le week-end dernier. Nous étions dans le Haut-Sassandra et le Lodjibois. Et puis, actualité hors de chez nous, dossier sur le Niger. Le président français Emmanuel Macron annonce le retour dans les prochaines heures de l'ambassadeur français. À 8h, nous serons là pour la deuxième édition de la matinée. Excellent début de semaine à tous et à toutes. La suite est avec Sonia Ndiang.